Oh, du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, avant de vous donner le sermon pour ce troisième dimanche après Pâques, simplement un petit mot pour vous dire que je reprêche un petit peu les exercices de Saint-Ignace à petite dose et puis pour des petits groupes, puisque je n'ai que quatre chambres là où je suis, quatre chambres libres à l'étage, je suis près d'Albi dans le Tarn. Et j'ai déjà prêché une retraite pour la Semaine Sainte qui s'est très bien passée. Il y en a une autre en juillet qui est pleine et j'ai encore une place pour la retraite du 27 août au 1er septembre. Donc s'il y a une personne intéressée, veuillez me contacter le plus vite possible. 06 32 01 65 16. Donc c'est aujourd'hui le troisième dimanche après Pâques. Le thème des textes liturgiques de ce dimanche, c'est le retour de la vraie joie à la fin des temps. Ces deux textes, le texte de Saint Pierre, l'épître de Saint Pierre, première de Saint Pierre au chapitre 2, et également l'évangile de Saint Jean, chapitre 16, ont le même thème, c'est-à-dire la Pâque de la terre, les Pâques de la terre sont la préparation, le symbole de la Pâque éternelle. Et ici, notre joie n'est pas possible, ici nous sommes dans la tristesse, nous sommes dans une joie qui ne dure pas. Mais il y aura bientôt, à la fin des temps, ou à la fin de notre temps, lorsque nous serons jugés, si nous avons le bonheur d'être au ciel, à ce moment-là, nous participerons à une joie qui ne pourra plus s'effacer. Je pense que le point le plus important, il est au début de l'épître de Saint-Pierre. Voilà ce que dit Saint-Pierre. « Mes bien-aimés, je vous exhorte à vous abstenir comme étrangers et voyageurs en ce monde, des convoitises de la chair qui combattent contre l'âme. » Saint-Pierre nous rappelle que nous sommes des étrangers et des voyageurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes des viateurs, nous sommes dans la via, c'est-à-dire dans le chemin qui mène au ciel. Il faut donc passer par les différentes étapes de ce chemin, la voie purgative, la voie illuminative, la voie unitive, la voie purgative pour se purifier, la voie illuminative pour recevoir les lumières du Saint-Esprit, pardon, et la voie unitive ou mystique pour s'unir à notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc nous sommes ici comme de passage. Et donc la grande tentation pour nous, c'est de considérer notre implantation sur la terre comme une implantation définitive. Nous ne sommes pas sur terre pour toujours. Nous sommes de passage. En quelque sorte, nous sommes sur un siège éjectable. Bon, ça durera combien de temps, on ne sait pas. Pour certains, ça peut durer presque un siècle. Mais en général, ça dure bien plus longtemps. Pour d'autres, ça dure même beaucoup moins longtemps. Il faut donc nous rappeler que je suis dans une situation précaire. Mon âme est en équilibre en quelque sorte entre deux mondes, le monde qui passe et le monde qui dure tout le temps. Et donc, puisque nous sommes des étrangers, des voyageurs, nous dit Saint-Pierre, il ne faut absolument pas nous considérer comme voulant nous ancrer définitivement ici-bas en ce monde. Beaucoup de gens, malheureusement, même des catholiques parfois, regardent le monde avec envie, comme s'ils voulaient, ils devaient y passer toute leur éternité. Par rapport à l'éternité du ciel, qu'est-ce que le temps que nous allons passer sur la terre? C'est un coup de sifflet bref, littéralement. Donc, il faut nous abstenir justement des joies du monde dans la mesure où ces joies s'opposent aux joies éternelles, parce que nous sommes des étrangers, des voyageurs. Et le monde moderne, si vous voulez, essaye de nous corrompre l'esprit en nous disant toujours la même chose, jamais souffrir, jamais mourir. Or, nous sommes des voyageurs, nous sommes des étrangers, ça veut dire que nous allons souffrir, ça veut dire que nous allons mourir, comme tout le monde. La différence entre les païens et nous, c'est que les païens ne veulent pas voir qu'ils vont souffrir et mourir, et nous savons que nous allons souffrir et mourir. Et donc, il faut nous préparer. Et certainement pas nous considérer comme des gens confortablement installés ici-bas, sans penser une seule seconde que nous ne sommes ici que pour quelques instants. C'est ça le drame. Le drame, il est là. Et je pense que le monde moderne fait tout pour nous faire oublier ces choses. Je suis un être d'éternité. Vous et moi, nous avons été créés pour aller dans une éternité, ou une éternité malheureuse, ou une éternité bienheureuse. Avec la grâce du bon Dieu, ce sera une éternité bienheureuse au ciel, mais sans la grâce du bon Dieu, ce sera une éternité de malheur en enfer. C'est ce que dit également l'oraison d'aujourd'hui au Dieu qui, pour permettre aux égarés de rentrer dans les voies de la justice, leur montrer la lumière de votre vérité, donnez à tous ceux qui professent la foi chrétienne de rejeter ce qui s'oppose à ce nom chrétien et de s'attacher à ce qui lui convient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai le droit de m'attacher aux créatures qui sont autour de moi, dans la mesure où ces créatures ne sont pas pour moi un obstacle pour aller au ciel. C'est le fameux « autant que, pas plus que » de saint Ignace de Loyola que j'ai souvent expliqué, et qu'on commence toujours à expliquer au début des exercices saint Ignace. J'ai été créé pour louer, honorer, servir Dieu selon mon âme. Je n'ai pas été créé pour passer des siècles et des siècles sur la terre. Je n'ai pas été créé pour passer mon éternité sur la terre. J'ai été créé, vous et moi, nous avons été créés pour passer une éternité au ciel. Il faut absolument que nous nous convainquions de ces choses-là, et surtout que nous en convainquions nos enfants. Est-ce que vous avez réussi à convaincre vos enfants que nous sommes sur un lieu de passage, dans un lieu de passage, ça n'a pas duré longtemps, et que donc ce que nous visons, c'est le ciel? Très souvent, malheureusement, dans les conseils que les parents, surtout les pères de famille, donnent à leurs grands-enfants quand ils arrivent en fin d'études secondaires, c'est un peu un conseil d'ordre purement matériel. Fais une grande école pour avoir un bon boulot et avoir une bonne somme d'argent qui tombe tous les mois pour pouvoir nourrir ta famille. Bien sûr, c'est important aussi, je ne dis pas, d'avoir un minimum de revenus pour pouvoir supporter sa famille. Tout à fait d'accord. Mais il faut d'abord faire comprendre à nos enfants, je suis un être d'éternité, le bon Dieu m'attend au ciel. Pour pouvoir aller au ciel et jouir du bon Dieu pour toute l'éternité, il y a une condition, c'est d'être en état de grâce au moment de ma mort. Et si je veux être en état de grâce au moment de ma mort, il y a une autre condition, c'est de vivre habituellement en état de grâce parce que je ne sais pas quand je vais mourir. Et l'arbre tombant du côté où il penche, si je vis comme un païen, vraisemblablement je vais mourir comme un païen. Donc saint Paul nous exhorte à nous rappeler, en début de cette épître de saint Pierre, choisie aujourd'hui par la Sainte Église, chapitre 2 de la première de saint Pierre, donc je vous exhorte à vous rappeler, dit saint Pierre, que nous sommes des étrangers, des voyageurs en ce monde. Et donc, puisque nous sommes des étrangers, des voyageurs, il faut nous abstenir des convoitises de la chair qui combattent contre l'âme. En fait, il parle pas simplement de la concupiscence de la chair, mais aussi de la concupiscence des yeux et de l'orgueil. Donc, il y a un combat, qu'on appelle le combat spirituel. D'une part, il va y avoir le démon, le monde, et qui vont tirer vers le bas pour nous empêcher de regarder vers le haut. Et au contraire, notre bon ange, l'ange gardien, l'Église catholique, les sacrements, la grâce, qui vont nous tirer vers le haut pour nous rappeler que nous sommes des êtres d'éternité, que le bon Dieu nous attend là-haut. Et donc, pour pouvoir nous abstenir des convoitises de la chair qui combattent contre l'âme, eh bien, il y a une condition. La condition, c'est de ne pas garder dans notre vie de tous les jours des occasions prochaines volontaires de péché mortel. Si je garde des occasions prochaines volontaires de péché mortel, il est évident que j'ouvre la porte à la convoitise de la chair, c'est-à-dire à la concupiscence de la chair, à la concupiscence des yeux, à l'orgueil de la vie, et je vais devenir de plus en plus lourd, si vous voulez, à cause du poids, si vous voulez, de mon sac à dos qui va devenir de plus en plus lourd, à cause précisément des choses de la terre qui vont remplir mon sac à dos. Imaginez que vous ayez à faire 50 km avec un gros sac à dos pour faire une longue marche, par exemple, de 50 km. Mais vous n'allez pas prendre un sac à dos de 50 kg. Vous n'arriverez pas au bout. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous videz votre sac à dos, vous ne gardez que le strict nécessaire pour avoir la possibilité d'arriver au bout de votre marche. Notre marche, elle finit au ciel. Et il faut passer par la croix. On passe par la crèche, et j'ai expliqué ça souvent, on passe par la crèche, puis la croix, et puis après la croix, eh bien, on vise le paradis par l'intermédiaire du tabernacle, qui contient déjà une partie du paradis ici-bas, et puis, après le tabernacle, avec la grâce du bon Dieu, c'est le paradis. Et donc, il faut nous alléger. Et si je garde dans mon sac à dos tous les biens de ce monde, si je suis trop attaché aux biens de ce monde, par les trois concupiscences de la chair, des yeux et de l'orgueil, eh bien, mon sac sera trop lourd et je serai incapable d'arriver jusqu'au bout, au bout du chemin. Donc, pour pouvoir m'abstenir, comme dit saint Pierre, des convoitises de la chair, des convoitises des yeux, la convoitise de l'orgueil, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, il faut pratiquer, évidemment, les vertus opposées, ce qu'on appelle les trois esprits, les trois vertus de pauvreté, de chasteté, d'obéissance. Contre la concupiscence de la chair, la chasteté, l'esprit de chasteté. Contre la concupiscence des yeux, l'esprit de pauvreté. Et contre la concupiscence de l'orgueil, l'esprit d'obéissance. Alors, vous voyez bien que, mes bien chers frères, que ces paroles de Saint-Pierre n'ont pas pris une ride. Elles ont pourtant été écrites il y a plus de 2000 ans. Alors, l'argument, si vous voulez, l'objection qu'on entend très souvent, vous dites, même monsieur l'abbé, vous ne vous rendez pas compte, vous nous demandez de vivre un peu comme des bons catholiques dans un monde qui est complètement athée. Mais ce n'est pas possible, on est bien obligé, dans le monde moderne, de pactiser avec quelque chose de ce monde. Eh bien, Saint-Pierre nous donne un conseil. Ayez, dit-il, une bonne conduite au milieu des païens, afin que là même où ils vous calomnient comme des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et en glorifient Dieu au jour de sa visite. Dans votre milieu de travail, surtout pour les hommes, dans votre milieu professionnel, vous pouvez faire un bien considérable simplement en agissant comme un chrétien. Je ne vous demande pas de dire à tout le monde que vous êtes un catholique et de porter une croix visible par tout le monde de 20 cm de haut. Ce n'est pas ce que je vous demande. Il faut que les gens puissent se dire, tiens, ce gars-là qui travaille avec nous, on remarque qu'il est toujours à l'heure au travail, il n'est pas toujours en train de critiquer les patrons et de pratiquer un esprit révolutionnaire de désobéissance constante par rapport aux supérieurs, il ne ment pas, il ne vole pas, il y a quand même quelque chose. Et le jour où ils se poseront vraiment certaines questions métaphysiques importantes sur leur devenir et là où ils vont, eh bien c'est vous qui viendront voir. Vous voyez, donc il faut faire attention et suivre ce conseil de Saint-Pierre, même au milieu des païens, c'est le cas pour nous, nous vivons au milieu de païens, qui remarquent vos bonnes œuvres et en glorifient Dieu au jour de sa visite. Et comme ils vous verront vivre comme chrétien, petit à petit, ils commenceront à se poser des bonnes questions. Encore une fois, on ne convertit pas trop les gens avec des paroles, on convertit les gens par la façon de vivre. C'est ça qui est extrêmement important pour nous. Donc il y a deux choses. D'une part, ils vont remarquer, les païens autour de nous vont remarquer nos bonnes œuvres. Et d'autre part, deuxième conséquence, dit Saint-Pierre, ils vont évidemment commencer à glorifier Dieu. Et beaucoup de gens peuvent sauver leurs âmes tout simplement parce qu'ils ont vu autour d'eux un chrétien agir. Se comporter comme un chrétien, ça peut être aussi le cas pour une mère de famille, dans sa façon de vivre dans la société où elle est obligée d'être, dans sa famille et ailleurs, et bien que les gens qui la voient vivre, qui la voient s'habiller, qui la voient se comporter, puissent se dire, celle-là, elle est différente. Elle est différente de nous. Manifestement, il y a quelque chose qui la guide, ce quelque chose, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, c'est Dieu. Et le jour où ils seront avec un pied dans la tombe, avec le deuxième pied qui est tout proche de la tombe aussi, eh bien c'est vous qui viendront me chercher en disant, oh là, je vais mourir, j'ai besoin d'aide. Et là, vous pourrez être l'instrument qui va peut-être permettre l'arrivée du prêtre et la confession avant la mort. Autre conseil de Saint-Pierre, il y en a plusieurs dans ce texte de Saint-Pierre. Il dit... La volonté de Dieu, c'est qu'en faisant le bien, vous réduisiez au silence l'ignorance des gens insensés. C'est la suite du conseil qu'il vient de donner juste avant. Donc, il veut que les païens autour de nous remarquent nos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour de sa visite. Et là, il dit, il faut par la façon de vivre, par le bien que vous faites autour de vous, il faut que vous réduisiez au silence l'ignorance des gens insensés. Pour la dernière retraite que j'ai prêchée, c'était pendant la Semaine Sainte, j'ai lu à table un livre sur qui s'appelle les soutanes sous la mitraille. Histoire des magnifiques aumôniers de la Première Guerre mondiale qui ont été obligés par le gouvernement français de se trouver le sac au dos et de participer à la guerre. Et donc ils étaient en première ligne de front en général, ou dans les hôpitaux, en première ligne de front comme brancardiers. Eh bien, ils étaient tous les soldats autour d'eux savaient qu'ils étaient prêtres, et énormément d'entre eux, beaucoup d'entre eux se sont convertis simplement en voyant leur courage au front, en voyant leur netteté au front, en voyant leur façon de se comporter, leur façon de vivre, leur gentillesse, leur charité avec les malades, leur charité avec les mourants. Ils ont compris, et beaucoup, beaucoup se sont convertis grâce à ça. Et ces aumôniers allaient jusqu'à dire, grâce à cette guerre, des milliers de jeunes ont sauvé leurs âmes. Ils sont morts en état de grâce à ces aumôniers, ils ne seraient pas morts sans cela. Et bien, c'est un peu la même chose qu'il faut qu'on fasse. Vous n'êtes pas des aumôniers, mais vous devez être comme des porteurs de celle de la terre et la lumière du monde, nous dit notre Seigneur. Simplement, par votre façon de vous comporter. Donc n'ayez pas peur de vous comporter comme des catholiques. Pour les hommes, surtout dans leur travail professionnel, par leur honnêteté. Et pour les femmes, je pense que c'est très important aujourd'hui, par leur habillement. Simplement, par leur habillement, elles peuvent faire un travail énorme pour expliquer justement qu'elles sont catholiques et qu'elles le prouvent, je dirais, par leur façon de s'habiller, pour honorer notre Seigneur Jésus-Christ, parce que notre corps est le gardien, si vous voulez, l'habitation d'une âme immortelle. Autre conseil de Saint Pierre, comportez-vous comme des hommes libres, non pour faire de la liberté une sorte de voile dont se couvre la méchanceté, mais comme des serviteurs de Dieu. En gros, Saint Pierre nous dit, n'utilisez pas votre liberté pour faire le mal, utilisez votre liberté pour faire le bien. Non pour faire de la liberté une sorte de voile dont se couvre la méchanceté, dit Saint Pierre, mais comme des serviteurs de Dieu. Là, il faut rappeler un petit peu ce qu'est la vraie liberté. La vraie liberté n'est pas du tout le droit de faire ce que je veux. Ça, c'est pas la liberté, mes bien chers frères. C'est la licence. La vraie liberté, c'est la définition de saint Thomas, c'est le choix des moyens pour atteindre une fin qui nous est imposée. La liberté n'est jamais le choix de la fin. Que ça me plaise ou non, je vais mourir un jour. Que ça me plaise ou non, le jour de ma mort, je vais être jugé par le bon Dieu. Donc, je vais devoir impérativement me préparer à la mort, puisque, que je le veuille ou non, un jour je vais mourir. Par contre, dans ma vie ici-bas, j'ai une liberté pour choisir le meilleur moyen pour me préparer à cette fin. Donc je peux choisir le moyen, je peux choisir la vie religieuse, je peux choisir tel ou tel travail, telle ou telle profession, mais toujours avec cette même ligne de conduite, à savoir sauver mon âme. Donc je n'ai pas le droit d'utiliser ma liberté pour me couvrir d'une espèce de voile de méchanceté, comme dit Saint Pierre, mais je dois utiliser ma liberté pour me rapprocher du bon Dieu. Le démon a mal utilisé sa liberté, regardez les conséquences pour lui. Nous, au contraire, nous devons vraiment considérer la liberté simplement comme un choix des moyens. Voilà. Je ne suis pas sur la terre pour faire ce que je veux, je suis sur la terre pour me préparer au ciel. Donc je suis sur la terre pour me préparer à la mort. Et pour me préparer à la mort, eh bien, je dois vivre en état de grâce. Parce que la mort va arriver sans prévenir. Je répète cette phrase qui est très importante, comportez-vous comme des hommes libres. La vraie liberté, ce n'est pas le droit de faire ce que je veux, la vraie liberté, c'est de me comporter comme un chrétien et de montrer aux gens ce qu'est la véritable liberté. Utiliser mon intelligence pour découvrir le vrai, puisque l'objet formel de mon intelligence, c'est le vrai. Utiliser ma volonté pour atteindre le bien, et utiliser donc cette liberté que j'ai, pour non pas pour choisir la fin et qui m'est imposé de l'extérieur, mais pour choisir le moyen qui est le meilleur pour moi pour atteindre cette fin. Voilà pourquoi nous sommes libres. Dans l'évangile de ce jour, donc l'évangile de Saint Jean au chapitre 16, à la fin il y a la même idée. L'évangile est assez compliqué, je voudrais, par manque de temps, surtout expliquer la fin de cet évangile. Donc Saint Jean au chapitre 16, versets 16 à 22. Voilà ce que nous dit Saint Jean. Il va redire la même chose que Saint Pierre nous avait déjà expliqué dans l'Épître. Vous pleurerez, vous gémirez, vous et le monde se réjouira, mais vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse sera changée en joie. Lorsqu'une femme enfante, elle a de la tristesse, parce que son heure est venue, mais lorsqu'elle a enfanté un fils, elle ne se souvient plus de la souffrance dans la joie qu'elle a d'avoir mis un homme au monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous verrai de nouveau et votre cœur se réjouira et personne ne vous ravira votre joie. Qu'est-ce que nous dit Saint Jean? Eh bien, il nous dit que, attention, nous sommes dans un monde, dans une vallée de larmes. Nous sommes dans un monde de tristesse, nous sommes dans un monde de pleurs. Parce que nous sommes catholiques dans un monde de païens, eh bien évidemment, il y aura en nous une certaine tristesse de voir que nous ne sommes pas reconnus en tant que catholiques dans le monde moderne, parce que nos préoccupations ne sont pas celles du monde. Et donc, nous pleurerons, nous gémirons, le monde au contraire se réjouira. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je me réjouis de quelque chose de bon, le monde va gémir et va pleurer à cause de ce bien que je veux pratiquer. Et au contraire, quand autour de moi je vois des choses mauvaises, le monde va se réjouir et moi je vais pleurer et gémir. Donc ne cherchons pas à plaire au monde, mes bien chers frères. C'est ça qu'on appelle le combat spirituel. Le monde se réjouira de choses qui pour nous, ce sont des choses que nous ne pouvons pas accepter et qui doivent nous faire gémir et pleurer. Rappelez-vous ce que disait Saint Rémy au roi Clovis, lorsqu'il l'a baptisé en 496 à Reims. Courbe la tête, fière sycambre, brûle ce que tu as adoré, adore ce que tu as brûlé. Brûle ce que le monde adore et adore ce que le monde brûle. Entre brûler et adorer, c'est deux choses complètement différentes. Donc je ne peux pas à la fois aller au ciel et aimer les choses du monde, c'est impossible. Donc il y a un choix à faire, mes bien chers frères. Donc demandons cette grâce de comprendre justement ce choix qui est absolument inévitable. Vous donc aussi, pardon, à la fin de l'évangile, vous donc aussi vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous réveillerai de nouveau, votre cœur se réjouira et personne ne vous ravira votre joie. Lorsque nous serons au ciel, personne ne pourra nous ravir cette joie. Donc, mes bien chers frères, lorsque nous sommes à la chapelle, lorsque nous sommes devant le Saint-Sacrement, le tabernacle c'est une petite portion du ciel. Et il faut adorer le tabernacle, adorer la sainte présence de notre Seigneur Jésus-Christ, la présence réelle de notre Seigneur Jésus-Christ, avec son corps, son sang, son âme et sa divinité sous les apparences du pain et du vin pendant la Sainte Messe. Eh bien, il faut justement que nous comprenions que ce tabernacle, le bon Dieu dans ce tabernacle nous attend ici pour nous amener au ciel. Et que cette joie d'ici-bas que nous devons avoir parce que nous sommes devant le tabernacle, nous devons être, comme je dirais, comme dans un endroit de repos devant le tabernacle. Mais en même temps, garder les yeux vers le ciel, parce que le bon Dieu nous dit, ici-bas, je ne peux pas encore vous donner une joie complète. Cette joie complète, vous l'aurez au ciel. Ce que la très sainte Vierge Marie avait dit à Sainte Bernadette, je ne peux pas vous rendre heureuse ici-bas pour vous promettre la joie ici-bas, mais dans l'autre monde, pas dans ce monde-là. Alors demandons à la très sainte Vierge Marie, mes bien chers frères, de savoir toujours lever les yeux vers le ciel pour ne pas nous décourager. Même si les choses sont difficiles, même si les épreuves sont lourdes, même si les croix sont très fréquentes et très pesantes ici-bas, Dieu sait si elles le sont, gardons nos yeux tournés vers le ciel, le bon Dieu nous attend au ciel, et c'est là qu'avec la grâce du bon Dieu et l'aide de la très sainte Vierge Marie, nous nous retrouvons un jour tous ensemble. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.